Pour beaucoup d'entre nous, les Jeux Olympiques ont été l'occasion de découvrir le BMX. Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mathieu ont écrit l'histoire du BMX français en réalisant un triplé historique. Dans les Hauts-de-France, il n'y a pas moins de 21 clubs et plus de 500 pilotes. Je suis allé à la découverte de cette discipline au BMX Club de Crépy-en-Valois lors de la quatrième manche de la Coupe régionale Hauts-de-France de printemps. Rencontre avec Georges Béranguier, ancien président et fondateur du club.
J'ai monté l'association vers 1997-98 et donc j'ai été voir la ville pour essayer d'avoir un terrain pour faire connaître le monde du BMX, pour faire fonctionner le club et puis faire voir aux Crépinois puis à beaucoup de monde puis comme il y avait beaucoup de championnats puis d'avoir une piste et puis pour participer après sur les courses comme aujourd'hui actuellement.
C'est une piste pour faire du race, du racing.
C'est du BMX race.
Il y a plusieurs sortes de BMX.
Voilà, dans la catégorie BMX, il y a BMX race, là c'est sur circuit. Donc après il y a BMX dirt sur des bosses où les pilotes font des figures. Et donc après il y a du flat, et le flat c'est au sol. Et donc après c'est des pilotes qui font des acrobaties sur leur vélo, des vélos plus lourds avec leur cale-pied. Et là actuellement ici sur Crépy, c'est la race, c'est avec un vélo le plus léger possible. Parce qu'après, quand on est sur le circuit, c'est un circuit ici à Crépy qui fait à peu près 340 mètres. Donc après, donc il faut essayer d'avoir un vélo le plus léger possible pour accéder, comme c'est très 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 physique. Et donc voilà.
Alors j'ai vu qu'il y avait deux catégories de courses. Il y a les 20 pouces et le cruiser.
Oui.
C'est quoi la différence ?
Alors le 20 pouces, c'est un BMX normal, comme vous voyez, avec des petites roues. Et donc le cruiser, c'est avec des roues de 24 pouces. Ça ressemble, c'est entre le VTT et puis le VTT c'est du 26 pouces et puis le cruiser c'est du 24 pouces.
Et donc ça fait une grosse différence pour la course.
Bah la différence, oui, parce que le vélo est plus grand avec les roues de 24 pouces, donc c'est plus grand et puis on est quand même mieux aussi sur un vélo de cette taille-là sur un 24 pouces cruiser.
Dans le club, là, il y a combien d'adhérents, à peu près ?
Là, actuellement, depuis l'année dernière, avec les JO de Paris, on a fait un triplé français, médaille d'or, bronze et puis argent. Et donc, ça, dans tous les clubs, ça. Et puis les gens ont découvert en même temps aussi ce sport-là, avec le triplé olympique. Et là, on est monté en flèche dans beaucoup de clubs. Et puis là, on est à plus de 80 pilotes.
Et alors, ça commence à partir de quel âge ?
Ah, donc là, ça commence à partir de, on va dire, 4 ans et demi, 5 ans. C'est suivant. Après, il y a des gamins de 4 ans et demi qui peuvent tenir sur un vélo. Parce qu'après, il y a plusieurs dimensions de vélo. C'est-à-dire après il y a micro, après il y a mini, après il y a pro XL, enfin après il y a suivant la taille des pilotes, il y a une taille appropriée pour le pilote de taille de vélo.
Et ça va jusqu'à quel âge ?
Jusqu'à vétéran.
Il n'y a pas d'âge pour finir ?
Voilà, il n'y a pas d'âge quoi. Et maintenant après, on fait actuellement les draisiennes. C'est des petits vélos sans pédalier. C'est-à-dire que les gamins ont les pieds, et c'est-à-dire qu'ils poussent avec leurs pieds et on commence à les mettre sur une ligne pour qu'ils commencent à s'adapter, à pousser avec les pieds. Et puis donc après, si ça leur plaît, après c'est là qu'ils passent sur une catégorie mini, donc après actuellement, après jusqu'à... Et c'est là qu'ils découvrent en même temps le BMX, ça leur plaît, puis donc après...
Vous disiez 4 ans et demi, on peut faire de la compétition à partir de 5 ans, 4-5 ans ?
Ah oui. Bah oui, comme là actuellement, il y a les catégories. La première catégorie commence. Après, bon, c'est je ne sais pas quoi. Et puis donc, avant, c'était poussin.
Mais
ils peuvent très bien commencer à faire les compétitions. Et donc actuellement, moi j'étais voilà, président et puis entraîneur aussi. Et donc là, je continue toujours, j'ai un peu mis le côté, laissé ma place de président. Maintenant c'est monsieur Vincent Lorenz qui est président. Moi je suis resté vice-président et je suis entraîneur. Et moi j'entraîne maintenant le samedi matin, j'entraîne les filles.
On peut faire du BMX toute l'année ? Ou c'est simplement printemps, été ou...
On essaye de faire le maximum pour qu'ils puissent rouler toute l'année. Après, c'est souvent aussi fonction du temps. Et parce que après, bon, quand il pleut, voilà, c'est pas évident. Donc nous, l'hiver, ce qu'on fait, maintenant, on met des bâches. On bâche toute la piste, du départ jusqu'à l'arrivée, pour essayer de faire rouler au maximum et d'ouvrir au maximum le club pour que les pilotes puissent venir s'entraîner.
Vous bâchez, ça veut dire quoi ? Parce que je comprends pas. Ben vous ne roulez pas quand c'est bâché.
Si, on met des bâches justement quand il pleut pour éviter après.
Vous roulez sur les bâches ?
Oui, on roule sur les bâches. On met des bâches pour empêcher parce que si on ne met pas de bâches, ça permet. S'il pleut, ça fait des flaques d'eau et tout. Et après, on bâche. Et c'est-à-dire qu'on peut continuer à rouler, à ouvrir, et on peut rouler quand même s'il y a les bâches dessus. Et après, arriver là, après, quand on arrive à la période du printemps, on débâche tout, on enlève les bâches. Et puis donc après, bon, chaque année, après, on schiste, on fait appel à la ville, on nous fournit 30 tonnes de schiste, c'est le tas que vous avez derrière là. Et donc après c'est comme c'est de la tuile concassée quoi. Et donc après c'est comme la terre battue comme au tennis. Et donc après on remet ça sur au printemps, on met ça sur la piste et puis donc après on compacte et puis après c'est de l'entretien parce qu'après le printemps l'herbe pousse, enfin c'est beaucoup d'entretien.
Pour le BMX, il existe des pistes couvertes.
Pistes couvertes, oui. Parce qu'après, il y a des villes, ils font des compétitions, on appelle ça des indoors. Et donc, comme à Caen, Saint-Étienne, eux, ils font des... C'est comme des Coupes de France. Et donc, eux, ils font ça en indoor, en salle, le week-end.
Il faut quand même au BMX un certain équipement.
Oui, obligatoire. Donc, casque intégral, gants, maillot manche longue. Après, un pantalon jean. Et puis donc après, nous, ce qu'on fait... là, on a fait des maillots du club. Et donc après, on fait fabriquer des maillots avec le prénom derrière.
Et il n'y a pas de chaussures spécifiques ?
Non, pas de chaussures spécifiques. Après, c'est des tennis. Parce qu'après, il y a une catégorie de pilotes. Après, quand il y a des pilotes qui sont confirmés, eux, ils roulent en pédale automatique, comme les cyclistes. Mais là, il faut être vraiment confirmé. On ne peut pas mettre un gamin avec tout de suite en pédale automatique. C'est-à-dire que là, quand le pilote passera avec des pédales automatiques, il aura déjà un certain niveau.
La dernière demi-finale donc s'est lancée. Ce sont les 17-24 ans et le bon départ. Il est du côté de Romain Vitry, le pilote du BMX Courtier de Renette. Et qui doit revenir à la troisième position du Cadourlan. Romain Vitry, aux deux premières positions, Mathias.
Alors là, on va parler un peu de l'organisation des championnats, puisque ici, c'est la quatrième manche du championnat de printemps.
Ouais.
Ça correspond à quoi en fait ?
C'est une catégorie au début d'année, c'est la dernière de la Coupe de printemps. Et après, on redémarre après, ensuite vers septembre, et on appelle ça championnat d'automne.
En fait, là, c'est la quatrième manche, c'est de la région des Hauts-de-France.
Ouais.
C'est divisé en région ?
Ouais. En région, oui.
C'est les Hauts-de-France ou c'est les quarts Est ?
Non, c'est les Hauts-de-France. Parce qu'avant, on appelait ça championnat de Picardie. Et bien après, maintenant, c'est devenu le Hauts-de-France. Et puis maintenant, c'est pour ça qu'on partage entre l'Oise et puis le Nord. Et puis on appelle ça le championnat de Hauts-de-France.
Parce que moi, j'ai entendu qu'il y avait des compétitions, le quart Nord-Est.
Oui, parce qu'après, quart Nord-Ouest et tout, après, on sort là, du championnat Hauts-de-France. C'est-à-dire qu'après, c'est une catégorie pour Nord-Ouest, Sud-Est et tout. C'est pour se qualifier, pour aller après... sur les grands championnats, pour réunir après le championnat de France, le championnat d'Europe, et puis donc après, ces courses-là permettent aussi pour se qualifier pour le championnat du monde. Et là, cette année, le championnat du monde se passe à Copenhague, je crois. Et donc, on aura des pilotes qui seront qualifiés pour le championnat du monde, et après, on va essayer de trouver des solutions pour essayer de les aider pour... qui puissent participer. Parce que l'année dernière, on a eu un pilote qui est parti aux USA pour le championnat du monde. C'est Maxime Demange. Et donc, puis là actuellement, c'est un pilote qui roule très très fort. Il est dans une catégorie, il a 12-13 ans. Et il roule, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est, il est qualifié comme Vincent Lorenz, il est qualifié aussi. Et puis on espère qu'ils participeront au championnat du monde pour représenter les couleurs de Crépy.
On n'a pas parlé encore la façon dont se déroulait la compétition. J'ai bien compris, il y a trois manches d'abord, qualification,
voilà.
Et après on attaque...
Dans chaque catégorie, il y a, suivant le nombre de pilotes, parce qu'après ça se passe comme ça, il y a trois manches qualificatives. C'est-à-dire qu'ils partent à 8 au départ, il faut terminer dans les 4 premiers. Donc après, ils font leurs trois manches comme ça, et donc à partir de là, il faut rentrer, après on calcule, 4, il faut qu'ils arrivent dans les 12 points. Donc après arriver là, s'il peut avoir très bien des, suivant le nombre de pilotes, il peut très bien avoir des quarts, des huitièmes, et donc après, admettons s'il y a, admettons deux demi-finales de chaque catégorie, c'est pareil, ils vont partir à 8, c'est-à-dire on va prendre les 4 premiers. L'autre demi-finale va se courir, ils vont partir à 8, on va reprendre les 4 premiers. Et donc après on réunit les 4 premiers de la première demi-finale, on reprend les 4 premiers de la deuxième demi-finale, on les réunit pour faire une finale à 8 sur le départ. Parce que la butte de départ, ça correspond à 8 pilotes maximum.
Ouais, après les 3 manches qualificatives, c'est élimination directe.
Oui, après ceux qui passent pas les points, et comme je vous dis, il faut terminer dans les 4 premiers absolument.
Chaque pilote fait au moins 3 manches.
Ah oui,
chaque
pilote fait sur 3 manches. Et sur ces 3 manches-là, il faut finir au moins dans les 4 premiers pour se qualifier. Et arrivé là, s'ils sortent des points, eux, ils ont fini, c'est-à-dire ils sortent des manches, la course est terminée.
Donc là, j'ai compris que le championnat de France cette année, ça serait à Compiègne, c'est ça ?
Oui, donc là, il va y avoir un championnat de France au mois d'octobre. Et donc à Venette, et là, c'est une grosse compétition. Là, ça va réunir plus de 1000 pilotes. Ça va se passer sur un week-end. Et donc là, et puis en plus de ça, je crois qu'ils m'ont dit qu'il y avait un pilote qui avait fait les Jeux Olympiques l'année dernière à Paris, qui sera présent là-bas. Donc ça va passer aussi sur les chaînes télé. Mais là, c'est vraiment le grandiose. Là, c'est là pour voir les élites, enfin, vraiment les pilotes qui roulent fort. Là, c'est vraiment impressionnant.
Dans le sud de l'Oise, pour RVM, c'était Hervé de Chornia, à la découverte du BMX Club Crépinois lors de la 4e Coupe régionale de printemps des Hauts-de-France.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
De toute façon, c'est les chaos, tout est fermé, il y a peut-être bien un Covid qui traîne, il y a peut-être une insurrection qui frémit. Je préfère rester à l'intérieur, dans mon chaos intérieur, et écouter Radio Campus Lille 106.6.
Comme si l'après pointait l'avant. mécanique s'essoufflait. Le temps passe, on est vite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on est vite, ne passons pas trop vite. C'est comme si c'était fini, comme si la mémoire servait l'oubli. We'll be right back.
l'Institut Cœur Poumon à Lille, c'est une véritable avancée pour le dépistage du cancer du poumon. Un projet transfrontalier avec des partenaires belges, le projet ALCOV. Ici, accompagné par le professeur Sébastien Hulot, chercheur et coordinateur du projet, le professeur Arnaud Cherperel, pneumologue, et le docteur Yanis Psonka, tabacologue, qui vont nous éclairer sur le fonctionnement et l'objectif du projet.
Alors, l'objectif du projet ALCOV, c'est un projet de recherche qui vise à proposer un dispositif non-invasif et simple d'utilisation pour améliorer le dépistage du cancer bronchopulmonaire.
Alors justement, c'est pas anodin qu'on soit dans les Hauts-de-France, parce que les Hauts-de-France sont particulièrement touchés par le cancer du poumon notamment. Est-ce que vous avez des chiffres ou des diagnostics à nous donner?
Alors particulièrement les régions Hauts-de-France et aussi la partie transfrontalière en miroir au niveau Belgique. Hein. Il existe une surmortalité en fait par cancer bronchopulmonaire sur cette région, notamment de par le passé, on va dire industriel, les habitudes de vie par rapport au tabac et aussi à la pollution atmosphérique qui font qu'on a une surmortalité de l'ordre de 10 à 15% par rapport au niveau national, et ce qui fait qu'on a un intérêt commun à travailler sur le sujet. De façon plus globale, le cancer bronchopulmonaire est une maladie avec une faible survie à l'heure actuelle. Et pourquoi ? Parce que en fait, très souvent actuellement, notamment dans les deux tiers des cas, les patients sont diagnostiqués à un stade tardif et avec des taux de survie à 5 ans qui sont de l'ordre d'une dizaine de 2%. Si maintenant on met en place des programmes de dépistage et qu'on arrive à prendre en charge plus précocement cette maladie, on va pouvoir proposer plus fréquemment une chirurgie thoracique à ces patients et donc améliorer considérablement, leur survie à 5 ans pour atteindre des taux de 80 à 90%.
Ce projet, il est porté par 17 partenaires franco-belges, donc il est sur un projet sur 4 ans, donc jusqu'en 2028. Qui sont ces partenaires, avec qui vous travaillez et quel est le budget? Comment vous vous financez?
Alors, le projet ALCOV, c'est l'association de différents partenaires. Il y a des partenaires qui sont des partenaires technologiques, il y a des partenaires cliniques. Et les deux vont devoir travailler ensemble, ce qui est quelque chose qui est assez intéressant. C'est surtout une aventure humaine, en fait. Hein. C'est pour pouvoir faire communiquer des équipes avec des compétences très différentes. C'est quelque chose qui est quand même assez exceptionnel et assez intéressant. Différents partenaires sont répartis de façon transfrontalière de part et d'autre de la frontière, avec des partenaires qui sont répartis de façon géographiquement équitable en fait sur le territoire. Et ces différents partenaires vont travailler en concert, notamment les équipes technologiques qui vont d'abord travailler sur l'amélioration de notre dispositif et qui vont devoir le reproduire pour pouvoir le fournir aux équipes cliniques qui vont devoir le valider lors d'une étude clinique dans un second temps.
Ce travail transfrontalier s'effectue à l'aide du projet européen qui leur permet de travailler ensemble.
Le CHU de Lille est le promoteur en fait de cette étude et il coordonne avec notre chef de projet François Cierner le projet qui permet justement de faire collaborer ces différentes équipes qui ne parlent pas toujours le même langage. Par conséquent, ça nécessite d'avoir des fonds, et ces fonds, on les a obtenus auprès d'un fonds Interreg européen qui au total aura un financement de 6,6 millions d'euros, et ce sont des fonds FEDER qui nous sont donnés sur 4 ans. La première phase de miniaturisation et de l'amélioration d'une électronique doit se faire d'ici 2025, et ensuite sur les deux années suivantes, nous allons devoir effectuer deux études cliniques les unes après les autres pour pouvoir valider d'un point de vue clinique le dispositif.
Le docteur Psonka est tabacologue et son contact permanent et direct avec les patients va l'aider à sélectionner ceux qui vont pouvoir participer à l'étude clinique et qui permettra par la suite de valider le nez électronique.
Ce seraient des patients fumeurs qui seraient potentiellement symptomatiques ou non d'une maladie respiratoire, d'un cancer potentiellement ou non. On voit assez régulièrement des patients qui sont complètement asymptomatiques mais qui sont sensibles aux messages de prévention, des risques pour la santé que représente leur tabagisme, et qui vont donc venir pour demander de l'aide pour sevrer leur tabagisme. Et ce sera véritablement à ce moment-là qu'on aura l'occasion, entre guillemets, de leur mettre le grappin dessus pour leur dire « Est-ce que vous avez déjà entendu parler de programmes de dépistage ?» Et s'ils sont intéressés, on ne va jamais forcer qui que ce soit à faire le moindre examen, mais s'ils sont intéressés de participer à ce genre d'examen.
Et en général, pourquoi, selon vous, il y a une réticence à venir justement se faire dépister pour ce cancer ?
La principale crainte des patients, c'est justement de trouver quelque chose. Ils vont nous dire « non, j'ai pas envie de faire de scanner parce que classiquement, c'est le scanner qui est concerné, parce que ça va me prendre du temps, parce que si on me trouve quelque chose, ça va me mettre en difficulté, parce que j'ai pas le temps. » Je pense que le temps, c'est vraiment le facteur essentiel dans notre pratique, autant de notre côté que de l'autre côté du bureau, du côté des patients. C'est le temps de venir voir le spécialiste, le temps d'attente pour le revoir en consultation. Et donc, c'est la principale crainte. La deuxième crainte étant, comme je l'ai dit, la crainte du résultat.
Pour pouvoir mener à bien ce projet, l'avis d'un pneumologue est aussi essentiel. Le professeur Arnaud Cherperel pointe du doigt les besoins cliniques et l'intérêt d'un outil comme celui développé par Alcov.
Dans la région de France, on est malheureusement une des régions la plus touchée en termes de nombre de cas par rapport à la population totale pour les cancers du poumon, également d'autres cancers, mais notamment les cancers du poumon. Et on est également malheureusement une des régions où la mortalité par ces cancers des poumons, des voies aérodigestives supérieures est la plus forte en France. Donc il y a un double besoin pour la population d'essayer de diagnostiquer ces cancers le plus tôt possible. Donc l'importance du dépistage, mais également de la prévention avec le sevrage tabagique, etc. Et puis également, on a un problème, comme toute région, de déserts médicaux par endroit et d'accès aux soins pour certaines populations qui font que non seulement il faut qu'on améliore le dépistage de ces cancers, mais qu'on améliore également l'accessibilité au dépistage de ces populations, d'où le projet Alcov.
Et alors justement, quel est l'intérêt de ce projet Alcov, si vous pouvez détailler ?
Alors le projet Alcov est basé sur le fait d'avoir un outil simple pour accompagner le dépistage du cancer du poumon qui repose sur le scanner thoracique, ce qu'on appelle faible irradiation, mais qui demande déjà d'aller jusqu'au scanner. Et donc l'outil qu'on veut mettre au point dans Alcov, c'est donc ce qu'on appelle un électronique, qui permettrait de tester les sujets candidats pour ce dépistage, déjà pour les sensibiliser au dépistage, mais également donc pouvoir les pré-tester et augmenter leur motivation pour aller jusqu'au scanner et au dépistage. Ça, c'est le premier usage important, et donc cet outil qui serait simple d'utilisation en ville ou dans les cabinets ou à l'hôpital serait un outil précieux pour sensibiliser et recruter les sujets candidats au dépistage. Et puis la deuxième utilisation de cet outil, c'est également après le scanner, si on dépiste des anomalies sur le scanner, essayer de faciliter le bilan de ces anomalies sans automatiquement aller vers des gestes très invasifs, agressifs, comme des biopsies, etc. Ça pourrait être un outil décisionnaire pour savoir justement est-ce que ces anomalies sont suspectes ou pas, et éviter certains gestes ou bilans complexes.
Le nez électronique a été pensé à partir du nez du chien, capable de détecter certaines formes de cancer. Le professeur Sébastien Hulot nous explique.
Le nez électronique, c'est un système qui permet de recueillir l'air exhalé des patients, et cet air exhalé va se déposer sur des capteurs qui vont réagir d'un point de vue électronique à la présence ou non de certains composés organiques volatiles. Et l'intégration de l'ensemble des réponses de ces capteurs va faire que le nez électronique, selon des algorithmes en fait de décision, va répondre « attention, il y a un risque important d'avoir un cancer bronchopulmonaire » ou alors « le risque est très faible d'avoir un cancer bronchopulmonaire ».
L'objectif, c'est de produire plusieurs exemplaires pour une étude clinique menée dans 9 hôpitaux du territoire. Donc, selon vous, d'ici combien de temps on va arriver à ce stade-là, et quelles sont vos attentes justement à l'issue de ces essais cliniques ?
Alors, sur le projet Alcov, on s'est donné comme objectif de fournir les 9 centres avec notre dispositif d'ici la fin d'année 2025, afin qu'on puisse initier les études cliniques dans la foulée, pour terminer le projet dans les temps, puisqu'on a 4 ans. L'objectif de ces études cliniques, ça va être de voir comment les équipes vont s'approprier le dispositif et justement pouvoir avoir des retours avec les études, avec les centres technologiques, les équipes technologiques du projet, pour justement améliorer le dispositif et répondre au mieux à la demande des partenaires qui vont utiliser ce dispositif et qui vont participer au dépistage futur du cancer bronchopulmonaire.
L'objectif final est bien d'intégrer ce dispositif au sein d'un futur programme de dépistage.
La première des choses, c'est de valider le dispositif en pratique clinique. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est aussi que les équipes qui vont utiliser ce dispositif s'approprient en fait ce dispositif. Et c'est pour ça qu'on veut justement avoir une communication permanente avec les équipes technologiques du projet pour justement fournir un dispositif qui soit facile d'utilisation avec des interfaces qui guident l'utilisateur lors du recueil de la exhalée et qui donnent un résultat qui soit facile d'interprétation et qui puisse être utilisé par tous les professionnels de soins, que ce soit en hôpital ou en dehors de l'hôpital, pour justement répondre à la demande dans les populations qui sont les plus vulnérables.
Quelle est la perspective après ces essais cliniques ?
Alors, effectivement, l'étude ALCOV va commencer de manière un petit peu simultanée avec une grande étude clinique qui s'appelle Impulsion en France, qui est une étude nationale avec l'Institut national contre le cancer, les ARS et d'autres partenaires comme la Caisse d'assurance maladie. Et l'idée, c'est de développer le dépistage du cancer du poumon. Et donc, on va pouvoir tester en parallèle de cette impulsion les nez électroniques, donc dans le cadre du projet ALCOV, recruter des sujets. Et la perspective, c'est vraiment, on l'espère, d'avoir un outil utilisable en routine pour tout le monde par la suite après ces études. Il faut valider l'outil, le simplifier, pouvoir voir s'il est bien accepté par la population également et par nos collègues, médecins et autres personnes qui pourraient l'utiliser, les infirmières, etc. Donc c'est ça cet enjeu-là, et si tous les voyants sont verts, on espère un jour l'utiliser en routine.
Bien sûr, ce projet ne verra sa concrétisation que si on arrive à l'intégrer dans les futurs programmes de dépistage organisés. Et par conséquent, il faudra que notre dispositif soit reproduit à grande échelle. Par conséquent, il y aura un transfert industriel qui va devoir s'effectuer en fin de projet. Et on a un partenaire qui s'occupe spécifiquement de ça pour le projet.
Nous étions en compagnie du professeur Sébastien Hulot, du professeur Arnaud Cherperel et du docteur Yann Ipsonka, à l'Institut Cœur-Poumon à Lille pour le projet ALCOV. Un reportage réalisé par Chloé Lagnès pour RPL Radio.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Les filles, c'était comme une surprise partie. Dès que j'allais les voir, surprise, elles étaient toutes parties. Au lycée, on m'appelait le monstre de l'acné, une loque qu'on laisse seule à la récré. C'était comme un décret, bref, je n'étais qu'un déchet. Et moi, j'imaginais l'amour, plein de mots, plein de sons. Je pensais que c'était plein d'émotions. Moi aussi, je voulais mordre à l'hameçon. Après mille vicissitudes et deux, trois histoires de Cupidon, je fus soudainement touché par une flèche de Cupidon. Et là, je vous dis pas, je fus investi d'une émission qui ne rimait pas avec l'émission des terribles d'autrefois. Je n'étais pas là pour la déco. C'est comme ça que je suis tombé sur une conductrice de travaux. Avec elle, tout allait très vite. En 2-4, on s'est mis à faire les 3-8. J'ai rien en trave, et comme je faisais tout de travers,
je me suis mise à faire dans son cœur des travaux d'aménagement.
Souvent au marteau-piqueur et sans ménagement. Elle a aussi réveillé tous mes lapsus révélateurs, directement reliés à mon chariot élévateur. J'ai découvert en moi le terrible prédateur. Il s'appelle Fenwick, le Fennec. J'en détiens les droits d'auteur. Elle a transformé mes rimes de précarité en beurre de carité, mes prises de bec en prose des sables, autrefois sec et là intarissable.
Il était le cœur de mon sujet,
mon amour inconditionnel.
Avec lui je conjuguais la vie au plus que parfait.
C'était sensationnel. Moi, je pensais CDI et pas CDD. Mais voilà, seul le contrat d'apprentissage je possédais. Et après moult saisons, les roses ont pris la poussière.
L'érosion qui le reste en vitesse de croisière.
On alternait entre illusion de l'amour et amour de l'illusion.
On s'est dit au revoir un soir en éteignant la télévision.
Et comme j'ai le cul bordé de nouilles, pour moi depuis c'est merveille sur merveille. Il faut croire que quand une télé s'éteint, un être s'éveille.
Du 5 juillet au 31 août prochain, Parc en Fête revient au musée du Louvre-Lens et le programme est tellement dense qu'il est impossible de tout vous détailler dans ce sujet. Avec beaucoup d'activités gratuites en extérieur dans le parc du musée et de nombreux temps forts, c'est la possibilité également pour celles et ceux qui ne peuvent pas partir en vacances de passer un bel été. Ludovic Demathieu, chargé de projet médiation au Louvre-Lens.
On travaille pour l'été, pour une saison estivale festive depuis 8 ans, pour mettre en place une programmation à destination des habitants, des voisins, de tout le public qui souhaite découvrir le musée un peu différemment. Donc voilà, c'est une saison très festive avec plein de temps forts pour découvrir un parc de 20 hectares qui est assez incroyable, avec des environnements différents, et puis faire le lien avec le musée qui se trouve en plein milieu de ce parc et profiter d'une programmation très diversifiée pour proposer d'autres choses que ce qu'on a dans l'année au musée.
Parc en fait est marqué cette année par le passage du Tour de France et vous avez mis en place un week-end festif à cette occasion, donc les 5 et 6 juillet prochains.
Ouais, on a souhaité faire un écho à ce grand événement qu'on a la chance de voir passer juste devant le musée. Donc on travaille nous depuis plusieurs années autour de la thématique du vélo, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On incite aux mobilités douces pour venir aussi au musée. On a des engagements écologiques. Et du coup, on a voulu voulu proposer des animations, en tout cas, qui fassent le lien avec le musée. Donc, des animations artistiques qui permettent de découvrir le vélo différemment, sous la forme de jeux, sous la forme d'ateliers. Par exemple, on va faire un atelier pour décorer son vélo en lien avec les tableaux d'Archimboldo. Donc, c'est vraiment cette idée de faire le lien avec des œuvres d'art du passé et comment on peut leur donner vie dans un concours amusant, festif, accessible à tous, où on va pouvoir faire une grande parade où chacun viendra avec les décorations qu'il pourra faire et puis surtout le décorer sur le site du musée avec des associations, avec des ateliers de médiation. Et puis après, plein d'animations festives avec des vélos rigolos, avec du monocycle, avec des animations de cirque aussi. Et puis vraiment, ce volet aussi qu'on souhaite développer, c'est réparer son vélo, entretenir son vélo, le faire soi-même pour l'avoir après prêt pour tout l'été. Venir découvrir le parc en vélo, parce qu'on peut se balader dans le parc, il y a 20 hectares, et c'est très agréable de se balader en vélo, et puis surtout d'aller sur tous les sites autour du musée aussi, qui sont incroyables, et qui permettent de relier les endroits importants du territoire.
Alors bien sûr, qui dit musée dit œuvre, on va pouvoir admirer notamment deux œuvres participatives, mais aussi des œuvres en lien avec, par exemple, l'exposition S'habiller en artiste et la Galerie du Temps.
Oui, on a souhaité, cette année encore, proposer au public de participer à notre saison parc en fête. On a des œuvres de grands artistes reconnus qui sont dans le parc. Notamment, on a une œuvre de Nikit Saint-Phal depuis l'année dernière. Mais on souhaitait aussi travailler avec des artistes vivants qui travailleraient avec du public, du territoire, pour les associer dès le mois de juin à la saison parc en fête. Ça leur permet de travailler sur une installation qui sera visible de tous les publics pendant l'été. Et puis de travailler aussi avec une artiste, c'est échanger, c'est collaborer, c'est travailler avec elle, c'est réfléchir ensemble à la structure, à l'installation. Et puis surtout, c'est mélanger les publics qui ne se côtoient pas forcément. Et donc, pendant nos ateliers participatifs du mois de juin, on associe aussi bien des élèves, des lycéens qui viennent là pendant le mois de juin dans le cadre du stage de seconde, que des associations autour de la parentalité, des associations qui travaillent avec des adolescents, avec des publics très variés, multigénérationnels, qui vont la collaborer pour une même chose, pour une même installation. Et puis vraiment avoir cette fierté quand on va inaugurer les œuvres, de se dire moi j'ai participé à l'œuvre qui est exposée au parc du Louvre-Lens. Et ça donnera aussi envie, en tout cas on l'espère, de revenir pendant l'été et de participer à toutes les activités gratuites qu'on aura.
Et justement, j'ai pu rencontrer une de ces artistes qui est en train de travailler sur un projet collaboratif. Il s'agit d'Anaïs Beaulieu, artiste et autrice spécialisée dans la broderie contemporaine et formée à l'École nationale supérieure d'art de Limoges. En lien avec l'exposition S'habiller en artiste, elle travaille actuellement avec des jeunes issus de différents établissements sur 10 panneaux brodés qui seront installés autour du musée.
Je me suis inspirée d'une des stèles qui est du secteur des arts de l'islam qui est en haut. J'ai adapté en fait un motif qui est un motif qu'on retrouve aussi en broderie dans les textiles de la section des arts de l'islam. Donc en fait le projet là il prend sens aussi parce qu'il y a des étudiants à qui j'ai montré la technique et chacun est responsable d'une grille et ils reçoivent les groupes et ils leur montrent, donc il y a une transmission. Alors c'est vrai que moi je suis artiste plasticienne et que mon moyen de m'exprimer c'est la broderie sous toutes ses formes. Je brode la plupart du temps sur des matériaux peu communs en broderie traditionnelle, des sacs plastiques, du carton, des filets de pommes de terre, des déchets en fait qu'on voit plus en broderie. Et une partie dans mon travail donc c'est vraiment axé plus sur ces projets qui sont des projets participatifs. Et je dis souvent que je tisse du lien au sens propre comme figuré. Le fil là il prend une dimension symbolique pour relier ensemble et enfin pour relier les gens ensemble et faire ensemble.
Du 23 au 27 juillet, un autre temps fort de Parc en fête s'articulera autour du thème bien manger, la nature dans l'assiette, les explications de Ludovic de Mathieu.
Ça fait partie des engagements aussi du musée. On souhaite aussi sensibiliser, donc comme je disais, aux mobilités douces, à l'alimentation. Donc on travaille beaucoup avec des partenaires du territoire. Et notamment, on a souhaité s'associer avec les Anges Gardins et l'UFC Que Choisir pour leur donner carte blanche, pour créer des événements qui permettent de travailler autour de l'alimentation et du bien manger, tout en faisant le lien avec les œuvres du musée. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de tableaux qui représentent des scènes de repas. On a les tableaux du XVIIIe siècle. On a surtout les tableaux d'Archimboldo autour des fruits et légumes. Et on les utilise déjà toute l'année pour parler avec les scolaires de la saisonnalité, des fruits, des légumes, de ce qu'on mange, d'où ça vient aussi. Et puis, des échanges entre les pays, comment on a découvert, comment est arrivé le citron, etc. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de faire un focus autour de l'alimentation, mais sous la forme de jeux, sous une forme ludique et artistique. Donc, il y aura plein d'activités qui seront proposées, ateliers cuisine, ateliers découverte, initiation, dégustation, et puis ateliers de pratique artistique autour de cette thématique-là pendant toute la semaine.
Également, fin juillet, si je ne dis pas de bêtises, on va aussi, bien sûr, pouvoir redécouvrir le parc du musée, sa nature florissante, avec également un spectacle de prévu autour du sol, de ce qui se passe dans le sol.
Ouais, on a souhaité aussi, pendant l'été, proposer des spectacles avant une programmation art vivant. Nous, on a la chance au Louvre-Lens d'avoir une scène, donc on a des spectacles toute l'année en lien avec les expositions. Et pendant l'été, souvent, on fait une petite pause. Et là, on a souhaité prolonger en fait, cette saison de spectacles dans le parc avec de l'art de rue, avec des circassiens et puis avec des compagnies du territoire. Et notamment, on proposera un spectacle avec la compagnie Métal UHAUT, qui est bien connue dans la métropole, qui propose des spectacles qui permettent justement, là, dans ce cadre-là, qui s'appelle La Faille, de prêter attention à des choses qu'on ne regarde pas forcément, de voir le sol sur lequel on marche, de regarder les aspérités du sol, de voir un peu ces failles qu'on a dans le sol, qui sont après habitées, peuplées par des mauvaises herbes, par des insectes. Et donc il y aura un spectacle qui permettra justement d'y prêter attention et de créer une sorte d'installation un peu participative, collaborative avec le public.
Autre temps fort de parc, en fait, c'est la Nuit des Étoiles, là aussi, avec beaucoup de choses, de l'astronomie évidemment, du cinéma en plein air et une nuit sous une tente.
Oui, le 9 août, on a souhaité proposer un nouveau temps fort autour des étoiles. Ce sera la deuxième année, puisqu'on avait testé ce format l'année dernière. Ça avait très bien marché. On avait justement expérimenté quelque chose qui n'avait jamais été fait au musée, c'est-à-dire de dormir sous la tente. On avait déjà eu des séances de cinéma de plein air qui étaient proposées dans le cadre de Parc en Fête. Et là, on a souhaité coupler une programmation assez exceptionnelle avec à la fois de l'observation des étoiles, des planètes, avec un club d'astronomie de Lens qui sera là toute la soirée jusqu'à même 4h du matin pour observer les étoiles, les planètes et les étoiles filantes aussi. On en a eu beaucoup l'année dernière. Et puis en même temps, des ateliers du cinéma de plein air, ouverts et accessibles à tous gratuitement. Des animations aussi qui seront proposées, des petites surprises dans la soirée, notamment des balades à la lampe torche et des ateliers à la lampe torche. Et puis vraiment, je pense que ce qui a attiré beaucoup de personnes l'année dernière, et on l'avait fait pour un petit public, une quarantaine de personnes, c'est que cette année, on va reproposer donc la nuit sous la tente pour 90 personnes. On n'est pas encore un camping. On est à un musée, donc on souhaite quand même faire ce petit pas de côté et montrer que la culture est partout. Et donc on proposera aux quelques chanceux qui pourront s'inscrire en juillet pour cet événement, dormir sous la tente et se réveiller le matin dans le parc du Louvre-Lens, face au musée, et prendre un petit déjeuner tous ensemble et faire des séances de bien-être après pour se remettre de cette nuit sous la tente.
Toujours dans le cadre de Parc en Fête au Louvre-Lens, le week-end des 16 et 17 août, on gardera la tête dans les étoiles avec toujours l'observation du ciel, du soleil, mais aussi des ateliers de création de cerfs-volants et un spectacle circassien de la compagnie 3 secondes. Ludovic Demathieu.
On a voulu aussi proposer des spectacles variés, notamment un spectacle avec des circassiennes, la compagnie 3 secondes, qui proposera un spectacle autour du ciel et plus particulièrement de l'aviation. C'est un spectacle de portée, de voltige, qui est assez impressionnant, très poétique, accessible pour toute la famille, qui sera présenté dans le parc, en lien aussi avec la programmation autour du ciel. Et notamment, on a voulu mettre en place une activité cerf-volant avec un club d'astronomie. Et donc, ils viendront faire des initiations, des démonstrations de cerf-volant. C'est des clubs qui sont lors des grands événements à Berck, au Crotoy, qui ont l'habitude, avec des cerfs-volants géants notamment, de faire des animations pour le public. Et donc là, ils proposeront de fabriquer son cerf-volant, de le décorer en lien avec les œuvres du musée, et puis après, de s'initier pour le piloter, parce que ce n'est pas toujours évident non plus, en fonction du vent, donc de donner un peu les bases pour l'utiliser pendant l'été après.
On va également pouvoir se former à la photographie dans Parc en Fête à l'occasion de la Journée mondiale de la photographie. Ce sera du 20 au 24 août.
Oui, on a voulu aussi proposer une programmation autour de la photo. On a un lieu qui est très photogénique. On a un bâtiment qui est assez incroyable, une architecture magnifique, et puis un parc avec des environnements très différents. Et depuis quelques années, on organise des balades photos qui plaisent beaucoup. C'est vraiment l'idée de découvrir avec un professionnel, avec un photographe professionnel, les trois petits trucs qui permettent de faire des belles photos. Donc il y a vraiment une partie technique Et puis après, on part en balade dans le parc et on va à la chasse aux photos avec des consignes qui sont données par le photographe. Et donc, ensuite, on partage les photos les uns avec les autres, avec les publics. C'est des publics qui sont très variés. On a des adolescents, des adultes, des enfants qui y participent. Et puis, les plus belles photos, on les imprime. Donc, on peut repartir avec sa photo, un peu sa carte postale qu'on aura réalisée soi-même du parc, du musée, de l'architecture. Et la volonté aussi, après, c'est de valoriser ces photos pour en faire des cartes postales qu'on pourra distribuer au public.
On arrive déjà à la fin de l'été dans Ma Cabane, fin août, avec notamment une exposition de la CIMADE. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, on a souhaité aussi, donc, comme on le fait dans la programmation durant toute l'année, autour de nos expositions, notamment on l'avait fait pour l'exposition Exil, c'est travailler avec les structures du territoire. Et valoriser aussi le travail qui est fait par ces structures, par ces associations. Et donc notamment, on a un partenariat avec la CIMADE qui va organiser une exposition photo au sein du musée qui présentera une expo qui a été réalisée avec des bénéficiaires de la CIMADE autour de l'idée de l'habitation, de la cabane, du logement, notamment quand on est exilé, quand on est expatrié, quand on quitte son domicile, qu'on quitte son habitation et puis qu'on est parfois amené à loger aussi dans des habitats de fortune. Et donc il y a des ateliers qui ont été faits avec ces personnes. Et donc le résultat de ces ateliers a donné lieu à une très belle expo photo qui sera présentée au sein du Louvre-Lens et qui sera le fil rouge pour le week-end. Donc on aura des ateliers qui seront proposés pendant tout le week-end autour de la cabane. Donc effectivement la cabane comme habitat, mais aussi on a voulu faire un clin d'œil à la cabane de l'enfance à travers des animations. On fera de l'acrobranche, on aura des circassiens qui feront un parcours aussi autour du thème de la cabane, dans le sous-bois notamment, qui amènera le public à redécouvrir aussi différemment le musée du Louvre-Lens et sa végétation. Et puis plein d'autres surprises qui accompagneront ce week-end. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un week-end très varié, avec de la photo, des parcours d'acrobranche, des animations artistiques, pour terminer l'été en beauté.
Et il y a plein d'autres choses à découvrir lors de Parc en Fête tout l'été au Louvre-Lens. Par exemple, le week-end de Fiesta des 12 et 13 juillet, l'exposition Rayon de Soleil de l'artiste brésilienne Sonia Gomes et tout un tas d'activités ludiques et artistiques. La grande majorité de ces activités sont gratuites. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.louvrelens.fr. C'était un sujet de Jean-Philippe Planck de Radio Plus.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Cultivez votre esprit contestataire. Écoutez Radio Campus Lille 106,6.
Depuis que mes copines deviennent des mamans, elles me téléphonent de moins en moins souvent. Elles ne pensent plus à moi, c'est fou, c'est décevant. Et de voir à quel point c'est égoïste une maman. Depuis que mes copines deviennent des mamans, il me semble impossible de trouver un moment pour leur parler de mes problèmes, de mes emmerdements. Y'en a que pour leurs gosses et qu'elles trimballent tout le temps. Je regrette l'époque où je les faisais rire, où lorsque je parlais, elles m'écoutaient attentivement. Maintenant je suis transparent, je suis plus dans la ligne de mire. Faut-il que je fasse pipi caca pour me rendre intéressant? Car depuis que mes copines deviennent des mamans, j'ai tendance à parler de moins en moins souvent. Je dépose les armes devant ce petit tyran dont le moindre rot est apparemment fascinant. Là-dedans, ce qui m'écœure, c'est que mes copines sont d'autant plus jolies et craquantes depuis qu'elles sont mamans, et que tout ce bonheur, elles me le balancent dans les dents. sans aucune pudeur et sans aucun ménagement. Je regrette le temps de leurs histoires douloureuses, quand au milieu de la nuit, elles venaient sonner à ma porte, que je les consolais, parfois de manière crapuleuse, et qu'elles me susurraient, y'a que toi qui me réconforte. Mais depuis que mes copines deviennent des mamans, tintin pour la tendresse, une fois de temps en temps, elles se la jouent fidèles à ce type qui est pourtant très chiant, mais qui a pour mérite de leur avoir fait un enfant. Depuis que mes copines deviennent des mamans, lorsqu'avec le papa elles veulent aller au restaurant, elles pensent au bon copain qui sera forcément très content de garder ce petit ange, cet ennemi, ce concurrent qui court dans tous les coins, qui fout le bordel dans mes CD. Il faut que je me retienne, sinon je vais faire un malheur. Mais lorsque je m'approche dans le but de l'étrangler, il me fait un sourire à faire fondre un serial killer. Alors je le regarde et je pense à toutes ces copines qui sont passées parfois entre mes bras trop hésitants. Alors je le regarde, moi qui toujours me débine, et je me dis que la prochaine, peut-être que je la changerai en maman.
Cupid, humble from wool and sack, it is pretty stupid.